Romain Rolland, Jean-Christophe. Tome 2, Le matin. Chapitre 1. La mort de Jean-Michel. 3 années ont passé. Christophe va avoir 11 ans. Il continue son éducation musicale. Il apprend l'harmonie avec Florian Holzer, l'organiste de Saint-Martin, un ami de grand-père, un homme très savant. Le maître lui enseigne que les accords qu'il aime le mieux, des harmonies qui lui caressent si doucement l'oreille et le cœur qu'il ne peut les entendre sans un petit frisson tout le long de l'échine, sont mauvais et défendus. Quand l'enfant demande pourquoi, il n'est pas d'autre réponse sinon que c'est ainsi. La règle le défend. Comme il est naturellement indiscipliné, il ne les en aime que mieux. Sa joie est d'en trouver des exemples chez les grands musiciens qu'on admire et de les apporter à grand-père ou à son maître. À cela, grand-père répond que chez les grands musiciens, c'est admirable et que Beethoven ou Bach pouvaient tout se permettre. Le maître, moins conciliant, se fâche et dit aigrement que ce n'est pas ce qu'ils ont fait de mieux. Christophe a ses entrées au concert et au théâtre. Il apprend à toucher de tous les instruments. Il est même d'une jolie force déjà sur le violon. Et son père a imaginé de lui faire donner un pupitre à l'orchestre. Il y tient si bien sa partie qu'après quelques mois de stage, il a été nommé officiellement second violon du Hofmusikverein. Ainsi, il commence à gagner sa vie. Et ce n'est pas trop tôt, car les affaires se gâtent de plus en plus à la maison. L'intempérance de Melchior a empiré, et le grand-père vieillit. Christophe se rend compte des tristesses de la situation. Il a l'air sérieux et soucieux d'un petit homme. Il s'acquitte vaillamment de sa tâche, bien qu'elle ne l'intéresse guère, et qu'il tombe de sommeil le soir à l'orchestre. Le théâtre ne lui cause plus l'émotion de jadis, quand il était petit. Quand il était petit, il y a 4 ans de cela, sa suprême ambition eût été d'occuper cette place où il est aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'aime pas la plupart des musiques qu'on lui fait jouer. Il n'ose pas encore formuler son jugement sur elles. Au fond, il les trouve sottes. Et quand, par hasard, on joue de belles choses, il est mécontent de la bonhomie avec laquelle on les joue. Les œuvres qu'il aime le mieux finissent par ressembler à ses collègues de l'orchestre qui, le rideau tombé, lorsqu'ils ont fini de souffler ou de gratter, s'épongent en souriant et racontent tranquillement leurs petites histoires comme s'ils venaient de faire 1 heure de gymnastique. Il a revu de près son ancienne passion, la chanteuse blonde aux pieds nus. Il la rencontre souvent, pendant l'entracte, à la restauration. Elle sait qu'il a été amoureux d'elle et elle l'embrasse volontiers. Il n'en éprouve aucun plaisir. Il est dégoûté par son phare, son odeur, ses gros bras et sa voracité. Il la hait maintenant. Le grand-duc n'oubliait pas son pianiste ordinaire. Non que la modique pension attribuée pour ce titre fût exactement payée, il fallait toujours la réclamer. Mais de temps en temps, Christophe recevait l'ordre de se rendre au château, quand il y avait des invités de marque, ou bien quand il prenait fantaisie à leurs altesses de l'entendre. C'était presque toujours le soir, à des heures où Christophe eût voulu rester seul. Il fallait tout laisser et venir en toute hâte. Parfois, on le faisait attendre dans une antichambre parce que le dîner n'était pas fini. Les domestiques, habitués à le voir, lui parlaient familièrement. Puis, on l'introduisait dans un salon, plein de glace et de lumière, où des personnes gourmées le dévisageaient avec une curiosité blessante. Il devait traverser la pièce trop cirée pour aller baiser la main de leurs altesses. Et plus il grandissait, plus il devenait gauche, car il se trouvait ridicule et son orgueil souffrait. Ensuite, il se mettait au piano et il devait jouer pour ces imbéciles. Il les jugeait tels. À des moments, l'indifférence environnante l'oppressait tellement qu'il était sur le point de s'arrêter au milieu du morceau. L'air manquait autour de lui. Il était comme asphyxié. Quand il avait fini, on l'assommait de compliments, on le présentait de l'un à l'autre. Il pensait qu'on le regardait comme un animal curieux, qui faisait partie de la ménagerie du prince, et que les éloges s'adressaient plus à son maître qu'à lui. Il se croyait avili. et il devenait d'une susceptibilité maladive dont il souffrait d'autant plus qu'il n'osait la montrer. Il voyait une offense dans les façons d'agir les plus simples. Si l'on riait dans un coin du salon, il se disait que c'était de lui. Et il ne savait pas si c'était de ses manières, ou de son costume, ou de sa figure, de ses pieds, de ses mains. Tout l'humiliait. Il était humilié si on ne lui parlait pas, humilié si on lui parlait, humilié si on lui donnait des bonbons, comme à un enfant, humilié surtout si le grand-duc, avec un sans-façon princier, le renvoyait en lui mettant une pièce d'or dans la main. Il était malheureux d'être pauvre, d'être traité en pauvre. Un soir, rentrant chez lui, l'argent qu'il avait reçu lui pesait si fort qu'il le jeta en passant par le soupirail d'une cave. Et puis, immédiatement après, il eut fait des bassesses pour le ravoir, car à la maison, on devait plusieurs mois au boucher. Ses parents ne se doutaient guère de ses souffrances d'orgueil. Ils étaient ravis de sa faveur auprès du prince. La bonne Louisa ne pouvait rien imaginer de plus beau pour son garçon que les soirées au château dans une société magnifique. Pour Melchior, c'était un sujet de vanterie continuelle avec ses amis. Mais le plus heureux était grand-père. Il affectait bien l'indépendance, l'humeur frondeuse, le mépris des grandeurs. Mais il avait une admiration naïve pour l'argent, le pouvoir, les honneurs, les distinctions sociales. Sa fierté était sans pareille de voir son petit-fils approcher ceux qui y participaient. Il en jouissait comme si cette gloire rejaillissait sur lui, et malgré tous ses efforts pour rester impassible, son visage rayonnait. Les soirs où Christophe allait au château, le vieux Jean-Michel s'arrangeait toujours pour rester chez Louisa, sous un prétexte ou sous un autre. Il attendait le retour de son petit-fils avec une impatience d'enfant, et quand Christophe rentrait, il commençait par lui adresser, d'un air détaché, quelques questions indifférentes comme « Eh bien, cela a marché ce soir ?» ou des insinuations affectueuses comme « Voici notre petit Christophe qui va nous raconter quelque chose de nouveau » ou bien quelques compliments ingénieux afin de l'amadouer. « Salut à notre jeune gentilhomme !» Mais Christophe, maussade et irrité, répondait par un « Bonsoir » très sec et allait bouder dans un coin. Le vieux insistait, posait des questions plus précises, auxquelles l'enfant ne répliquait que par oui ou par non. Les autres se mettaient de la partie, demandaient des détails. Christophe se renfrognait de plus en plus. Il fallait lui arracher les mots de la bouche, jusqu'à ce que Jean-Michel, furieux, s'emporta et lui dit des paroles blessantes. Christophe ripostait très peu respectueusement, et cela finissait par une grosse fâcherie. Le vieux s'en allait en faisant battre la porte. Ainsi Christophe gâtait toute la joie de ces pauvres gens qui ne comprenaient rien à sa mauvaise humeur. Ce n'était pas leur faute s'ils étaient domestiques dans l'âme. Ils ne se doutaient pas qu'on pût être autrement. Christophe se repliait donc en lui. Et sans juger les siens, il sentait un fossé qui le séparait d'eux. Il se l'exagérait sans doute, et malgré leur différence de pensée, il est probable qu'il se fût fait comprendre s'il avait réussi à leur parler intimement. Mais rien n'est plus difficile qu'une intimité absolue entre enfants et parents, même quand ils ont les uns pour les autres la plus tendre affection. Car d'une part, le respect décourage les confidences. De l'autre, l'idée souvent erronée de la supériorité de l'âge et de l'expérience empêche d'attacher assez de sérieux aux sentiments de l'enfant, aussi intéressants parfois que ceux des grandes personnes, et presque toujours plus sincères. La société que Christophe voyait chez lui, les conversations qu'il entendait l'éloignaient encore davantage des siens. À la maison venaient les amis de Melchior, pour la plupart musiciens de l'orchestre, buveurs et célibataires. Ils n'étaient pas de mauvaises gens, mais vulgaires. Ils faisaient trembler la chambre de leurs rires et de leurs pas. Ils aimaient la musique, mais en parlaient avec une bêtise révoltante. La grossièreté indiscrète de leur enthousiasme blessait à vif la pudeur de sentiment de l'enfant. Quand il louait ainsi une œuvre qu'il aimait, il lui semblait qu'on l'outrageait lui-même. Il se raidissait, blêmissait, prenait un air glacial, affectait de ne pas s'intéresser à la musique. Il l'eût haï si c'eût été possible. Melchior disait de lui, « Cet individu n'a pas de cœur. Il ne sent rien. Je ne sais pas de qui il tient. » Parfois, ils chantaient ensemble de ces chants germaniques à quatre voix, à quatre pieds, qui, toujours semblables à eux-mêmes, s'avance lourdement avec une niaiserie solennelle et de plates harmonies. Christophe se réfugiait alors dans la chambre la plus éloignée et injuriait les murs. Grand-père avait aussi ses amis, l'organiste, le tapissier, l'horloger, la contrebasse, de vieilles gens bavardes qui ressassaient toujours les mêmes plaisanteries et se lançaient dans d'interminables discussions sur l'art, sur la politique ou sur les généalogies des familles du pays. Bien moins intéressés par les sujets dont ils parlaient qu'heureux de parler et de trouver à qui parler. Quant à Louisa, elle voyait seulement quelques voisins qui lui rapportaient les commérages du quartier et de loin en loin quelques bonnes dames qui, sous prétexte de s'intéresser à elle, venaient retenir ses services pour un dîner prochain et s'arrogeaient une surveillance sur l'éducation religieuse des enfants. De tous les visiteurs, nul n'était plus antipathique à Christophe que son oncle Théodore. C'était le beau-fils de grand-père, le fils d'un premier mariage de grand-mère Clara, la première femme de Jean-Michel. Il faisait partie d'une maison de commerce qui avait des affaires avec l'Afrique et l'Extrême-Orient. Il réalisait le type d'un de ces Allemands nouveau style qui affectent de répudier avec des railleries le vieil idéalisme de la race et, grisés par la victoire, ont pour la force et le succès un culte qui montre qu'ils ne sont pas habitués à les voir de leur côté. Mais comme il est difficile de transformer d'un coup la nature séculaire d'un peuple, l'idéalisme refoulé ressortait à tout moment dans le langage, les façons, les habitudes morales, les citations de Goethe à propos des moindres actes de la vie domestique. Et c'était un singulier mélange de conscience et d'intérêt, un effort bizarre pour accorder l'honnêteté de principe de l'ancienne bourgeoisie allemande avec le cynisme des nouveaux condottieri de magasins. Mélange qui ne laissait pas d'avoir une odeur d'hypocrisie assez répugnante, car il aboutissait à faire de la force, de la cupidité et de l'intérêt allemand le symbole de tout droit, de toute justice et de toute vérité. La loyauté de Christophe en était profondément blessée. Il ne pouvait juger si son oncle avait raison, mais il le détestait, et il sentait en lui l'ennemi. Le grand-père n'aimait pas cela non plus, et il se révoltait contre ses théories. Mais il était vite écrasé dans la discussion par la parole facile de Théodore, qui n'avait point de peine à tourner en ridicule la généreuse naïveté du vieux. Jean-Michel finissait par avoir honte de son bon cœur, et pour montrer qu'il n'était pas aussi arriéré qu'on croyait, il s'essayait à parler comme Théodore. Cela détonnait dans sa bouche, et il en était lui-même gêné. Quoi qu'il pensât d'ailleurs, Théodore lui en imposait. Le vieillard éprouvait du respect pour une habileté pratique qu'il enviait d'autant plus qu'il s'en savait absolument incapable. Il rêvait pour un de ses petits-fils une situation semblable. C'était l'intention de Melchior qui destinait Rodolphe à suivre les traces de son oncle. Aussi tout le monde dans la maison s'ingéniait à flatter le parent riche dont on attendait les services. Celui-ci, se voyant nécessaire, en profitait pour trancher en maître. Il se mêlait de tout, donnait son avis sur tout, et ne cachait pas son parfait mépris pour l'art et les artistes. Il l'affichait plutôt, pour le plaisir d'humilier ses parents musiciens. Il se livrait sur leur compte à de mauvaises plaisanteries dont on riait lâchement. Christophe, surtout, était pris pour cible des railleries de son oncle. Et il n'était pas patient. Il se taisait, serrait les dents, l'air mauvais. L'autre s'amusait de sa rage muette. Mais un jour, qu'à table Théodore le tourmentait plus que de raison, Christophe, hors de lui, lui cracha au visage. Ce fut une affaire épouvantable. L'outrage était inouï. L'oncle en resta d'abord muet de saisissement. Puis la parole lui revint avec un torrent d'injures. Christophe, pétrifié sur sa chaise par l'horreur de son action, recevait sans les sentir les coups qui pleuvaient sur lui. Mais quand on voulut le traîner à genoux devant l'oncle, il se débattit, bouscula sa mère et se sauva hors de la maison. Il ne s'arrêta dans la campagne que lorsqu'il ne put plus respirer. Il entendait des voix qui l'appelaient au loin, et il se demandait s'il ne conviendrait pas qu'il se jetât dans le fleuve, faute de pouvoir y jeter son ennemi. Il passa la nuit dans les champs. Vers l'aube, il alla frapper à la porte de son grand-père. Le vieux était si inquiet de la disparition de Christophe, il n'en avait pas dormi, qu'il n'eut pas la force de le gronder. Il le ramena à la maison, où on évita de lui rien dire, parce qu'on vit qu'il était dans un état de surexcitation. Et il fallait le ménager, car il jouait le soir au château. Mais Melchior l'assomma pendant plusieurs semaines par ses doléances, en affectant de ne s'adresser à personne en particulier, sur la peine qu'on prenait pour donner des exemples de vie irréprochable et de belles manières à des êtres indignes qui vous déshonoraient. Et quand l'oncle Théodore le rencontrait dans la rue, il détournait la tête et se bouchait le nez avec toutes les marques du plus profond dégoût. Le peu de sympathie qu'il trouvait à la maison faisait qu'il y restait le moins possible. Il souffrait de la contrainte perpétuelle qu'on cherchait à lui imposer. Il y avait trop de choses, trop de gens qu'il fallait respecter sans qu'il fût permis de discuter pourquoi. Et Christophe n'avait pas la bosse du respect. Plus on tâchait de le discipliner et de faire de lui un brave petit bourgeois allemand, plus il éprouvait le besoin de s'affranchir. Son plaisir eût été, après les mortelles séances ennuyeuses et guindées qu'il passait à l'orchestre ou au château, de se rouler dans l'herbe comme un poulain, de glisser du haut en bas de la pente gazonnée avec sa culotte neuve, ou de se battre à coups de pierre avec les polissons du quartier. S'il ne le faisait pas plus souvent, ce n'était pas qu'il fût arrêté par la peur des reproches et des claques. Mais il n'avait pas de camarades. Il ne réussissait pas à s'entendre avec les autres enfants. Même les gamins des rues n'aimaient pas à jouer avec lui parce qu'il prenait le jeu trop au sérieux et qu'il donnait des coups trop forts. De son côté, il avait pris l'habitude de rester enfermé à l'écart des enfants de son âge. Il avait honte de n'être pas adroit au jeu et n'osait se mêler à leur partie. Alors il affectait de ne pas s'y intéresser, bien qu'il brûlât d'envie qu'on l'invitât à jouer. Mais on ne lui disait rien, et il s'éloignait, navré, d'un air indifférent. Sa consolation était de vagabonder avec l'oncle Gottfried quand celui-ci était au pays. Il se rapprochait de lui de plus en plus. Il sympathisait avec son humeur indépendante. Il comprenait si bien maintenant le plaisir que Gottfried trouvait à courir sur les chemins sans être lié nulle part. Souvent, ils allaient ensemble, le soir, dans la campagne, sans but, droit devant eux. Et comme Gottfried oubliait toujours l'heure, on revenait très tard et on était grondé. La joie était de s'esquiver, la nuit, pendant que les autres dormaient. Gottfried savait que c'était mal, mais Christophe le suppliait, et lui-même ne pouvait résister au plaisir. Vers minuit, il venait devant la maison et sifflait d'une façon convenue. Christophe s'était couché tout habillé. Il se glissait hors du lit, ses souliers à la main, et, retenant son souffle, il rampait avec des ruses de sauvage jusqu'à la fenêtre de la cuisine qui donnait sur la route. Il montait sur la table, Gottfried le recevait de l'autre côté sur ses épaules. Ils partaient, heureux comme des écoliers. Quelquefois, ils allaient retrouver Jérémie, le pêcheur, un ami de Gottfried. On filait dans sa barque au clair de lune. L'eau s'égouttant des rames faisait de petits arpèges, des notes chromatiques. Une vapeur de lait tremblait à la surface du fleuve. Les étoiles frissonnaient. Les coqs se répondaient de l'une à l'autre rive, et parfois on entendait, dans les profondeurs du ciel, les trilles des alouettes qui montaient de la terre, trompées par la clarté de la lune. On se taisait. Gottfried chantait tout bas un air. Jérémie racontait des histoires étranges de la vie des animaux. Elles paraissaient d'autant plus mystérieuses qu'il s'exprimait d'une façon brève et énigmatique. La lune se cachait derrière les forêts. On longeait la sombre masse des collines. Les ténèbres du ciel et de l'eau se fondaient. Le fleuve était sans un pli. Tous les bruits s'éteignaient. La barque glissait dans la nuit. Glissait-elle? Flottait-elle? Restait-elle immobile? Les roseaux s'écartaient avec un froissement de soie. On abordait sans bruit. On descendait sur la rive et on revenait à pied. Il arrivait qu'on ne rentrât qu'à l'aube. On suivait le bord du fleuve. Des nuées d'ablettes d'argent, vertes comme des épis ou bleues comme des pierreries, fourmillaient aux premières lueurs du jour. Elles grouillaient, pareilles aux reptiles de la tête de Méduse, se jetant voracement sur le pain qu'on jetait. Elles descendaient autour, à mesure qu'ils s'enfonçaient, et tournaient en spirale, puis s'effaçaient d'un trait, comme un rayon de lumière. Le fleuve se teintait de reflets roses et mauves. Les oiseaux s'éveillaient, les uns après les autres. On rentrait en hâte, on regagnait, avec les mêmes précautions qu'au départ, la chambre à l'air épais et le lit, où Christophe, qui tombait de sommeil, s'endormait aussitôt, le corps tout frais de l'odeur des champs. Tout allait bien ainsi, et on ne se serait aperçu de rien si Ernst, le frère cadet, n'avait un jour dénoncé les sorties de Christophe. Dès lors, elles lui furent interdites, et on le surveilla. Il ne s'en échappa pas moins. Il préférait à toute autre société celle du petit colporteur et de ses amis. Les siens étaient scandalisés. Melchior disait qu'il avait des goûts de manant. Le vieux Jean-Michel était jaloux de l'affection de Christophe pour Gottfried, et il le sermonnait de s'abaisser à plaisir en une compagnie aussi vulgaire quand il avait l'honneur d'approcher l'élite et de servir les princes. On trouvait que Christophe manquait de dignité. Malgré les embarras d'argent croissant avec l'intempérance et la feignantise de Melchior, la vie fut supportable tant que Jean-Michel fut là. Il était le seul qui eut quelque influence sur Melchior et qui, dans une certaine mesure, le retint sur la pente de son vice. Puis l'estime universelle dont il jouissait n'était pas inutile pour faire oublier les frasques de l'ivrogne. Enfin, il venait en aide au ménage à court d'argent. En outre de la modique pension qu'il touchait, comme ancien maître de chapelle, il continuait de récolter quelques petites sommes en donnant des leçons et en accordant des pianos. Il en remettait la plus grande partie à sa bru, dont il voyait la gêne, en dépit des efforts qu'elle faisait pour la lui cacher. Louisa se désolait à la pensée qu'il se privait pour eux. Le vieux y avait d'autant plus de mérite qu'il était habitué à vivre largement et qu'il avait de forts besoins. Quelquefois, ses sacrifices n'étaient même pas suffisants, et Jean-Michel devait, pour couvrir une dette pressante, vendre en secret un meuble, des livres, des souvenirs auxquels il était attaché. Melchior s'apercevait des cadeaux que son père faisait à Louisa en se cachant de lui, et souvent il mettait la main dessus malgré les résistances. Mais quand le vieux venait à l'apprendre, non de Louisa, qui lui taisait ses peines, mais d'un de ses petits-fils, il entrait dans une colère terrible, et il y avait entre les deux hommes des scènes à faire trembler. Ils étaient tous deux extraordinairement violents. Ils en arrivaient aussitôt aux gros mots et aux menaces. Ils semblaient prêts d'en venir aux mains, mais dans ses pires emportements, un respect invincible retenait toujours Melchior. Et si ivre qu'il fût, il finissait par baisser la tête sous l'averse d'injures et de reproches humiliants que son père déchargeait sur lui. Il n'en guettait pas moins la prochaine occasion de recommencer, et Jean-Michel avait de tristes appréhensions en pensant à l'avenir. « Mes pauvres enfants, disait-il à Louisa, qu'est-ce que vous deviendriez si je n'étais plus là ? Heureusement, ajoutait-il en caressant Christophe, que je puis encore aller jusqu'à ce que celui-ci vous tire d'affaire. » Mais il se trompait dans ses calculs. Il était au bout de sa route. Nul ne s'en fut douté. À 80 ans passés, il avait toujours ses cheveux, une crinière blanche, avec des touffes grises encore, et dans sa barbe drue des fils tout à fait noirs. Il ne lui restait qu'une dizaine de dents, mais avec, il s'escrimait solidement. Il faisait plaisir à voir à table. Il avait un robuste appétit, et s'il reprochait à Melchior de boire, lui-même buvait sec. Il avait une prédilection pour les vins blancs de la Moselle. Au reste, vin, bière ou cidre, il savait rendre justice à tout ce que le Seigneur a créé d'excellent. Il n'était pas assez mal avisé pour laisser sa raison dans son verre, et il gardait la mesure. Il est vrai que cette mesure était copieuse, et que dans son verre, une raison plus débile se fut noyée. Il avait bon pied, bon œil, et une activité infatigable. À 6 heures, il était levé et faisait méticuleusement sa toilette, car il avait le souci du décorum et le respect de sa personne. Il vivait seul dans sa maison, s'occupant de tout lui-même et ne souffrant pas que sa bru mît le nez dans ses affaires. Il faisait sa chambre, préparait son café, recousait ses boutons, clouait, collait, raccommodait. Et tout en allant et venant en bras de chemise du haut en bas de la maison, il chantait sans s'arrêter, d'une voix de basse retentissante qu'il se plaisait à faire sonner, accompagnant ses airs de gestes d'opéra. Ensuite, il sortait, et par tous les temps, il allait à ses affaires, sans en oublier aucune. Mais il était rarement exact. On le rencontrait à quelque coin de rue, discutant avec une connaissance, ou plaisantant avec une voisine, dont la figure lui revenait, car il aimait les jolis minois et les vieux amis. Il s'attardait ainsi, et ne savait jamais l'heure. Il ne laissait pas cependant passer celle du dîner. Il dînait où il se trouvait, s'invitant chez les gens. Il ne rentrait qu'au soir, la nuit tombée, après avoir vu longuement ses petits-enfants. Il se couchait, lisait dans son lit, avant de fermer l'œil une page de sa vieille Bible. Et la nuit, car il ne dormait pas plus d'une ou deux heures de suite, il se levait pour prendre un de ses vieux bouquins, acheter l'occasion. Histoire, théologie, littérature ou sciences. Il lisait au hasard quelques pages qui l'intéressaient et qui l'ennuyaient, qu'il ne comprenait pas bien, mais dont il ne passait pas un mot, jusqu'à ce que le sommeil le reprît. Le dimanche, il allait à l'office, se promenait avec les enfants et jouait aux boules. Jamais il n'avait été malade que d'un peu de goutte au doigt de pied qui le faisait jurer la nuit au milieu de ses lectures bibliques. Il semblait qu'il pût durer ainsi jusqu'au bout de son siècle, et il ne voyait aucune occasion pour qu'il ne le dépassât point. Quand on lui prédisait qu'il mourrait centenaire, il pensait, comme un autre vieillard illustre, qu'il ne faut point assigner de limite aux bienfaits de la Providence. On ne s'apercevait qu'il vieillissait qu'à ce qu'il avait facilement la larme à l'œil et qu'il devenait plus irritable chaque jour. La moindre impatience le jetait dans des accès de colère folle. Sa figure rouge et son cou court devenaient cramoisis. Il bégayait furieusement et il était forcé de s'arrêter, suffoquant. Le médecin de famille, un vieil ami, l'avait averti de se surveiller, de modérer à la fois sa colère et son appétit. Mais têtu comme un vieillard, il n'en faisait que plus d'imprudence par bravade. Et il raillait la médecine et les médecins. Il affectait un grand mépris pour la mort, ne ménageant pas les discours pour affirmer qu'il ne la craignait point. Un jour d'été, qu'il faisait très chaud, après avoir bu copieusement et s'être disputé par-dessus le marché, qu'il rentra chez lui et se mit à travailler dans son jardin. Il aimait remuer la terre. Nu-tête, en plein soleil, tout irrité encore par sa discussion, il bêchait avec colère. Christophe était assis sous la tonnelle, un livre à la main. Mais il ne lisait guère. Il rêvassait en écoutant la crécelle endormante des grillons. Et, machinalement, il suivait les mouvements de grand-père. Le vieux lui tournait le dos. Il était courbé et arrachait les mauvaises herbes. Soudain, Christophe le vit se relever, battre l'air de ses bras et tomber comme une masse, la face contre terre. Une seconde, il eut envie de rire. Puis, il vit que le vieux ne bougeait pas. Il l'appela, il courut à lui, il le secoua de toutes ses forces. La peur le gagnait. Il s'agenouilla et essaya à deux mains de soulever la grosse tête, appliquée contre le sol. Elle était si lourde et il tremblait tellement qu'il eut peine à la remuer. Mais quand il aperçut les yeux renversés, blancs et sanglants, il fut glacé d'horreur. Il la laissa retomber en poussant un cri aigu. Il se releva épouvanté, il se sauva. Il courut au dehors. Il criait et pleurait. Un homme qui passait sur la route arrêta l'enfant. Christophe était hors d'état de parler. Il montra la maison. L'homme y entra, et Christophe le suivit. D'autres avaient entendu ses cris et arrivaient des maisons voisines. Bientôt le jardin fut plein de monde. On marchait sur les fleurs, on se penchait autour du vieux, on parlait tous à la fois. Deux ou trois hommes le soulevèrent de terre. Christophe restait à l'entrée, tourné contre le mur, se cachait la figure dans ses mains. Il avait peur de voir. Mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Et quand le cortège passa près de lui, il vit, à travers ses doigts, le grand corps du vieux qui s'abandonnait. Un bras traînait à terre. La tête, appuyée contre le genou d'un porteur, cahotait à chaque pas. La face était tuméfiée, couverte de boue, saignante, avec la bouche ouverte et ses terribles yeux. Il hurla de nouveau, et prit la fuite. Il courut sans s'arrêter jusqu'à la maison de sa mère, comme s'il était poursuivi. Il fit irruption dans la cuisine avec des cris affreux. Louisa épluchait des légumes. Il se jeta sur elle et l'étreignit avec désespoir pour qu'elle vînt à son secours. La figure convulsée par ses sanglots, il pouvait à peine parler. Mais dès le premier mot, elle comprit. Elle devint toute blanche, laissa tomber ce qu'elle tenait, et sans une parole, se précipita hors de la maison. Christophe resta seul, blotti contre l'armoire. Il continuait de pleurer. Ses frères jouaient. Il ne se rendait pas compte exactement de ce qui s'était passé, il ne pensait pas à grand-père, il pensait aux images effrayantes qu'il avait vues tout à l'heure. Et sa terreur était qu'on ne l'obligeât à les revoir, à revenir là-bas. Et en effet, vers le soir, comme les autres petits, las d'avoir fait dans la maison toutes les sottises possibles, commençaient à geindre qu'ils s'ennuyaient et qu'ils avaient faim, Louisa rentra précipitamment, les prit par la main et les emmena chez grand-père. Elle allait très vite, et Ernst et Rodolphe essayèrent de grogner, suivant leur habitude. Mais Louisa leur imposa silence d'un tel ton qu'ils se turent. Une peur instinctive les gagnait. Au moment d'entrer, ils se mirent à pleurer. Il ne faisait pas encore tout à fait nuit. Les dernières lueurs du couchant allumaient d'étranges reflets à l'intérieur de la maison, sur le bouton de la porte, sur le miroir, sur le violon accroché au mur dans la première pièce à demi obscure. Mais chez le vieux, une bougie était allumée, et la flamme vacillante, se heurtant au jour livide qui s'éteignait, rendait plus oppressante l'ombre lourde de la chambre. Assis près de la fenêtre, Melchior pleurait avec bruit. Le médecin, penché sur le lit, empêchait de voir celui qui y était couché. Le cœur de Christophe battait à se rompre. Louisa fit agenouiller les enfants au pied du lit. Christophe se risqua à regarder. Il s'attendait à quelque chose de si terrifiant après le spectacle de l'après-midi qu'au premier coup d'œil, il fut presque soulagé. Grand-père était immobile et semblait dormir. Mais quand il entendit son souffle oppressé, quand en regardant mieux, il vit cette figure bouffie où la meurtrissure de la chute faisait une tache violacée, quand il comprit que celui qui était là allait mourir, il se mit à trembler. Et tout en répétant la prière de Louisa pour que grand-père guérît, il priait au fond de lui pour que, si grand-père ne devait pas guérir, grand-père fût déjà mort. Il avait l'épouvante de ce qui allait se passer. Le vieux n'avait plus sa connaissance depuis l'instant où il était tombé. Il ne la retrouva qu'un moment, juste assez pour prendre connaissance de son état. Et ce fut lugubre. Le prêtre était là et récitait sur lui les dernières prières. On souleva le vieillard sur son oreiller. Il rouvrit lourdement ses yeux qui ne semblaient plus obéir à sa volonté. Il respira bruyamment, regarda sans comprendre les figures, les lumières. Et soudain il ouvrit la bouche. Un effroi indicible se peignait sur ses traits. Mais alors, il bégayait, mais alors, je vais mourir. L'accent terrible de cette voix perça le cœur de Christophe. Jamais elle ne devait plus sortir de sa mémoire. Le vieux ne parlait plus, il gémissait comme un petit enfant. Puis l'engourdissement le reprit, mais sa respiration devenait encore plus pénible. Il se plaignait, il remuait les mains, il semblait lutter contre le sommeil mortel. Dans sa demi-conscience, une fois, il appela « Maman !» Oh, l'impression poignante! Ce balbutiement du vieux homme, appelant sa mère avec angoisse, comme Christophe aurait fait. Sa mère, dont jamais il ne parlait dans la vie ordinaire, suprême et inutile recours dans la terreur suprême. Il parut s'apaiser un instant. Il eut une lueur de conscience. Ses lourds yeux, dont l'iris semblait flotter à la dérive, rencontrèrent le petit, glacé de peur. Ils s'éclairèrent. Le vieux fit un effort pour sourire et parler. Louisa prit Christophe et l'approcha du lit. Jean-Michel remua les lèvres et chercha à lui caresser la tête avec sa main. Mais aussitôt, il retomba dans sa torpeur. Ce fut la fin. On avait renvoyé les enfants dans la chambre à côté. Mais on avait trop à faire pour s'occuper d'eux. Christophe, attiré par l'horreur, épiait, du seuil de la porte entr'ouverte, le tragique visage renversé sur l'oreiller, étranglé par l'étreinte féroce qui se resserrait autour du cou. Cette figure qui se creusait de seconde en seconde, cet enfoncement de l'être dans le vide qui semblait l'aspirer comme une pompe. L'abominable râle, cette respiration mécanique semblable à une bulle d'air qui crève à la surface de l'eau, dernier souffle du corps qui s'obstine à vivre quand l'âme n'est déjà plus. Puis la tête glissa à côté de l'oreiller et tout se tut. Ce ne fut que quelques minutes après, au milieu des sanglots, des prières, de la confusion causée par la mort, que Louisa aperçut l'enfant, blême, la bouche crispée, les yeux dilatés, qui serrait convulsivement la poignée de la porte. Elle courut à lui. Il fut pris dans ses bras d'une crise. Elle l'emporta. Il perdit connaissance. Il se retrouva dans son lit, hurla d'effroi parce qu'on l'avait laissé seul un instant, eut une nouvelle crise et s'évanouit encore. Il passa le reste de la nuit et la journée du lendemain dans la fièvre. Enfin, il s'apaisa et tomba, la seconde nuit, dans un sommeil profond qui se prolongea jusqu'au milieu du jour suivant. Il avait l'impression qu'on marchait dans la chambre, que sa mère était penchée sur son lit et l'embrassait. Il crut entendre le chant doux et lointain des cloches, mais il ne voulait pas remuer. Il était comme dans un rêve. Quand il rouvrit les yeux, l'oncle Gottfried était assis au pied de son lit. Christophe était brisé et ne se souvenait de rien. Puis la mémoire lui revint, il se mit à pleurer. Gottfried se leva et l'embrassa. « Eh bien, mon petit, eh bien, » disait-il doucement. « Ah, oncle, oncle !» gémissait l'enfant en se serrant contre lui. « Pleure, » disait Gottfried, « pleure !» Il pleurait aussi. Lorsqu'il fut un peu soulagé, Christophe essuya ses yeux et regarda Gottfried. Gottfried comprit qu'il voulait lui demander quelque chose. « Non, » fit-il en mettant un doigt sur sa bouche, « il ne faut pas parler. Pleurer est bon, parler est mauvais. » L'enfant insistait. « Cela ne sert à rien. » « Seulement une chose, une seule. »« Quoi ?» Christophe hésita. « Ah, oncle, » demanda-t-il, « où est-il maintenant ?» Gottfried répondit, « il est avec le Seigneur, mon enfant. » Mais ce n'était pas ce que demandait Christophe. « Non, tu ne comprends pas. Où est-il, lui ?» Il voulait dire le corps. Il continua d'une voix tremblante, « Est-ce qu'il est toujours dans la maison ?»« On a enterré le cher homme ce matin, » dit Gottfried. « N'as-tu pas entendu les cloches ?» Christophe fut soulagé. Puis, à la pensée qu'il ne reverrait plus le cher grand-père, il pleura de nouveau, amèrement. « Pauvre petit chat !» répétait Gottfried, regardant l'enfant avec commisération. Christophe attendait que Gottfried le consolât. Mais Gottfried n'essayait pas, sachant que c'est inutile. « Oncle Gottfried, » demanda l'enfant, « est-ce que tu n'as donc pas peur aussi de cela, toi ?» Combien il eût voulu que Gottfried n'eût pas peur et qu'il lui enseignât son secret. Mais Gottfried devint soucieux. « Chut !» fit-il d'une voix altérée. « Et comment n'avoir pas peur ? » dit-il après un instant. « Mais qu'y faire ? C'est ainsi. Il faut se soumettre. » Christophe secoua la tête avec révolte. « Il faut se soumettre, mon enfant, » répéta Gottfried. Il l'a voulu, il faut aimer ce qu'il veut. « Je le déteste !» cria Christophe haineusement, montrant le poing au ciel. Gottfried, consterné, le fit taire. Christophe lui-même eut peur de ce qu'il venait de dire, et il se mit à prier avec Gottfried. Mais son cœur bouillonnait, et tandis qu'il répétait les mots d'humilité servile et de résignation, il n'y avait au fond de lui qu'un sentiment de révolte passionnée et d'horreur contre l'abominable chose, et l'être monstrueux qu'il avait pu créer.